Mon cher Patrick Boucheron, ah, vous voilà donc le fossoyeur d'héritage, le dynamiteur d'identité, le déchiqueteur du roman national. Historien, vous ? Mais qu'est-ce que vous me racontez là ? Un historien, c'est fait pour raconter une histoire, celle d'un pays. La France, phare de l'humanité par exemple. Et si possible, avec un début et une fin. Vous avez tout chamboulé.
Vous savez, l'histoire, c'est rien d'autre que des histoires de fantômes pour grandes personnes. Voilà, il y a des choses qui reviennent.
Notre pays, il ne serait que la pièce d'un puzzle plus grand que lui. Les Français, un peuple façonné par l'émigration. Le destin collectif, une succession de hasards. Né à Paris en 1965 d'un père anesthésiste et d'une mère aux petits soins pour vous, vous grandissez fils unique dans le 12e arrondissement, puis en banlieue à Saint-Maur. Élève moyen, vous avez les passions de votre âge, les BD de Gottlieb, le reggae, les filles et l'équipe de foot de Saint-Étienne, version 76. Mais l'excellence vous rattrape. À 20 ans, vous assistez à une conférence de Georges Duby, l'idole des historiens, et une représentation du Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine. Double bang. Vous entrez à Normale Sup. À 23 ans, vous voilà agrégé. Thèse à 33 ans sur les villes italiennes au Moyen-Âge. Le Collège de France vous accueille, vous n'avez pas 50 ans.
Patrick Boucheron, c'est impressionnant parce qu'il jubile en parlant et tout le monde jubile à l'écouter.
Vous jouez avec l'histoire comme avec des allumettes. Vous la frottez à la littérature, au théâtre, avec la complicité de votre épouse comédienne, à la musique. Juste pour voir jusqu'où peuvent monter les flammes. Non seulement vous avez déboulonné Mallet et Isaac, les historiens de nos années lycéennes, mais vous avez égratigné l'idée que certains Français se faisaient d'eux-mêmes. Du coup, mon cher Patrick, il y a beaucoup de monde qui vous en veut. Voilà ce que c'est de jouer avec le feu.
Vous avez joué avec le feu. Vous avez décentré, en fait, le point de vue de l'histoire qu'on avait jusqu'à. Vous racontez une histoire globale, mondialisée. En fait, c'est le récit national que vous avez tué, en quelque sorte.
Mais j'ai pas fait exprès, vous savez. En réalité,
vous plaidez non coupable.
Oui, en fait, je suis un historien de l'Italie au départ. Le portrait le rappelle. Et de l'Italie, j'ai consacré ma thèse, je suis venu au monde. J'ai commencé à diriger une histoire du monde au XVe siècle, il y a 10 ans. Et c'est là où j'ai pris goût à cette joie féroce de travailler ensemble. Parce que c'est très solitaire, hein, le travail d'historien. Et en même temps, ça peut être entraînant dès lors qu'on se met ensemble et qu'on fait confiance à l'intelligence collective. Et donc, je suis arrivé de l'Italie au monde et du monde à la France. C'est pas mon objet, l'histoire de France, mais on a le droit. Hein. On a le droit de choisir ses objets. Et c'est pas mon objet, mais c'est mon pays. Et j'ai aucun compte à régler avec ce pays. Et donc voilà, c'était ça l'histoire mondiale de la France.
Hélène. Vous célébrez davantage les chantres de la négritude ou de la décolonisation que les Ronsard, Rabelais ou autres Baudelaire. Est-ce que vous avez déclaré, Patrick Boucheron, la guerre aux déclinistes, à ceux qui disent que c'est mieux avant ?
Oui, ça je crois qu'on peut le dire aussi brutalement et calmement, plus exactement que cela. Oui, je pense que c'est l'idée de déclin est une association facile, c'est-à-dire que ça nous permet à bon compte d'avoir une image flatteuse de nous. Et c'est vrai d'ailleurs, cette posture décliniste, elle est en même temps viriliste et elle est en même temps héroïque. C'est-à-dire c'est moi seul qui, d'une certaine manière, est le prophète de tous nos malheurs. Et ça, cette solitude, au fond, elle ne me plaît pas. Mais vous dites, je célèbre. Au fond, ce que je célèbre, c'est, disons, le travail historique et la méthode de l'histoire. Mais je crois que l'histoire n'est ni un art de l'acclamation, ni un art de la détestation. Donc quand on me dit « mais vous êtes un fossoyeur », c'est très, très, très éloigné au fond de ce qu'on a voulu faire.
Jean-Mathieu. Alors, je ne sais pas si c'est fossoyeur, mais on a souvent dit de vous que vous confondiez histoire et idéologie. Est-ce que vous pensez finalement qu'il y a une histoire de gauche et une histoire de droite ?
Non, pas du tout. Je pense que, justement, cette histoire mondiale de la France, vous savez, elle est très diverse dans ses dans, institutionnellement, politiquement, du point de vue générationnel. Or, en réalité, elle rassemble très largement, y compris dans son titre. Car au fond, je ne suis pas un historien de la France, mais j'ai fait l'histoire du monde. Je n'ai rien contre ceux qui font l'histoire de la France, mais d'une certaine manière, entre le national et le transnational, on commençait historiographiquement en France à se regarder en chien de faïence. Le titre même, Histoire mondiale de la France, est un titre conciliant. C'est un titre même réconciliant. C'est-à-dire, on n'a pas à choisir entre une histoire en grand et une histoire de là où on est.
Et en même temps, ces débats, ces disputes entre intellectuels, Patrick Boucheron, c'est éternel quasiment. En tout cas, ça ne date pas d'hier. Vous allez voir, Hélène, vous avez une archive à nous montrer à ce sujet.
Oui, il y a un philosophe disparu aujourd'hui que ces polémiques agaçaient au plus haut point, André Glucksmann. Il y a plus de 40 ans, André Glucksmann alertait déjà sur les conséquences de ces pics entre intellos. Nous sommes le 27 mai 1977 sur le plateau d'Apostrophe, l'émission d'Antenne 2 avec Bernard Pivot, bien sûr.
Ce type de dispute aboutit à quoi ? Aboutit à ce que passe, quand tout le monde s'est bien guillotiné réciproquement, aboutit à ce que passe une voiture balai qui ramasse les cadavres, aussi glorieux soit-ils. Et cette voiture balai, elle est conduite par des hommes d'appareil. Hein ? C'est comme ça que Staline a procédé. Staline, il n'est pas venu en 1920 en matraquant les intellectuels. Il a demandé aux intellectuels de se matraquer entre eux, ce qu'ils ont fait. Alors, la responsabilité de l'intellectuel, là, elle n'est pas immense, parce que, après tout, que vous vous disputiez, que vous injuriez, c'est pas très grave. Mais quand même, c'est un ton qu'on est en train de prendre en France et qui est dangereux.
Un ton qui est dangereux, vous Patrick Boucheron, on l'a dit.
C'est dangereux, c'est de fumer sur les plateaux.
Autre époque, mais les propos sont assez actuels finalement. Vous êtes, on l'a dit, vous êtes retrouvé à descendre dans l'arène hein, contre Finkielkraut, contre Zemmour, fossoyeur de l'héritage français. On vous a qualifié d'avoir, nous a dénoncé comme quoi vous auriez dissous comme ça la France en 800 pages. Est-ce que quand vous écoutez André Glucksmann, vous vous dites pas qu'il a raison, qu'il y a certaines polémiques entre intellectuels qui peuvent être néfastes?
Et surtout inutile, et surtout dispensable et vaine. C'est vrai que moi je suis médiéviste. J'ai cherché, vous l'avez dit, à rentrer dans l'arène à un moment. D'abord parce que je n'y étais pas seul et parce que j'avais au fond l'idée que j'avais quelque chose à y défendre et qui n'est rien d'autre que l'idée même du travail intellectuel. Voilà. Mais par ailleurs, depuis l'histoire mondiale de la France, j'ai publié un autre livre, bien plus savant, qui n'a pas fait polémique.
Sur Ambroise de Milan.
Saint-Ambroise de Milan et ses vies posthumes du 4e au 16e siècle. Je continue à faire mon métier. Et d'une certaine manière, nous le faisions, notre métier, les historiennes et les historiens de l'histoire mondiale de la France. Seulement, voilà. Il y a des moments, et c'est de ça dont on doit parler aussi collectivement, il y a des moments qui nous engagent et qui nous obligent. Et moi, je ne me sens pas depuis effectivement cette position que j'ai le privilège d'occuper au Collège de France, ça veut dire aussi s'adresser à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous attendent, et à s'adresser à eux là où ils sont. Donc oui, il faut s'engager.
Vous parliez de l'Italie avec la figure d'Ambroise de Milan. Il y a un autre Italien sur lequel vous avez écrit aussi, c'est Machiavel. Et vous l'avez comparé à Emmanuel Macron, Machiavel.
Ou plus exactement, j'ai comparé Macron à Machiavel quand on m'avait posé la question.
Macron à Machiavel, voilà. Bien sûr. Parce que Emmanuel Macron qui a lu Machiavel, d'ailleurs.
Oui, il a même fait, si j'ai bien compris, un diplôme qui est aujourd'hui introuvable sur Machiavel.
Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux personnages ?
Non, mais c'était très conjoncturel. C'est-à-dire que j'avais fait passer aux auditeurs de France Inter un été avec Machiavel et qu'un an plus tard, au moment où le livre paraissait, Emmanuel Macron était président de la République. Et d'une certaine manière, c'est comme s'il avait accompli à l'envers le parcours de Machiavel, qui est au fond un homme politique déçu qui prend sa revanche dans les livres. Or, on nous présentait Emmanuel Macron comme un intellectuel venu en politique. Il ne me semblait pas, ça a été compris différemment, mais il ne me semblait pas que c'était un grand éloge que de dire d'Emmanuel Macron qu'il était un Machiavel à l'envers, surtout que lorsqu'on lit Le Prince, on comprend que c'est ce qui se passe, que les qualités pour conquérir le pouvoir sont strictement opposées à celles qu'on doit exercer si on veut s'y maintenir. Voilà. C'est-à-dire que les qualités de conquête créent, disons, les conditions, ne serait-ce que d'ailleurs dans la bande, c'est beaucoup plus facile de conquérir
que de l'exercer.